Chapitre 65. Dolman Island, lundi 15 juin 1981. Saul se languissait dans sa niche depuis plus de 24 heures, lorsqu'il entendit un mécanisme grincer dans les murs et vit les barreaux d'acier se relever. Il resta quelques secondes à se demander ce qu'il devait faire. Il n'avait eu aucun mal à accepter sa condition de prisonnier. Elle l'avait mis étrangement à l'aise, comme si 40 années superflues s'étaient évanouies, le ramenant à l'instant essentiel de son existence. Il était resté étendu pendant 20 heures dans l'étroite niche de pierre et avait pensé à la vie, se rappelant dans leurs moindres détails les heures que Nathalie et lui avaient passées à se promener près de la ferme de Césarée, le soleil sur le sable et la brique, les eaux vertes et paresseuses de la Méditerranée. Rire et conversation, larmes et confidences peuplaient ses souvenirs, et les rêves s'emparaient de lui dès qu'il s'endormait, lui apportant de nouveaux témoignages de vie face à la brutalité de son dénuement présent. Les gardes lui avaient apporté 2 repas dans la journée et il les avait absorbés. Les plateaux en plastique contenaient de la viande et des nouilles déshydratées, un menu d'astronaute. Saul ne s'attarda pas sur le contraste ironique entre ce repas de navette spatiale et l'enclos à esclaves du XVIIe siècle. Il mangea tous les plats, but toute l'eau, et fit des exercices destinés à empêcher les crampes de nouer ses muscles, le froid de gagner son corps. Il se faisait du souci pour Nathalie. Chacun d'eux savait depuis plusieurs mois quelle tâche l'attendait et dans quelle solitude il devrait l'accomplir, mais leur séparation avait eu quelque chose de définitif. Saul pensa au soleil sur le dos de son père, au bras de Joseph passé autour de l'épaule de celui-ci. Saul gisait dans des ténèbres empuanties par 4 siècles de peur et pensait au courage. Il pensait aux Africains et aux Indiens d'Amérique qui avaient croupi dans ces cages de pierre, reniflant, tout comme lui, l'odeur du désespoir humain, ignorant qu'ils finiraient par triompher, que leurs descendants revendiqueraient avec succès la lumière, la liberté et la dignité refusée à ceux qui avaient attendu en ce lieu les chaînes ou la mort. Dès qu'il fermait les yeux, il voyait les wagons à bestiaux entrant en gare de Sobibor, les corps émaciés inextricablement mêlés, cadavres déjà froids en quête d'une introuvable chaleur, mais par-delà cette image de chair gelée et Dieu accusateur, il apercevait les jeunes sabras des kibboutzim qui partaient de bon matin travailler dans les vergers, ou s'armaient le soir venu pour faire leur ronde, le regard franc et confiant, trop confiant peut-être, mais vivant, si vivant. Leur seule existence était une réponse aux yeux interrogateurs des cadavres entassés dans les wagons et triés sur une voie de garage durant l'hiver 1944. Saul se faisait du souci pour Nathalie et avait peur pour lui-même, terriblement peur, de cette peur qui contracte les testicules et qu'on ne ressent que lorsqu'une lame s'approche des yeux ou de la langue, mais il la reconnaissait et l'accueillait avec joie, sachant parfaitement qu'elle ne l'avait jamais quittée, la laissait couler en lui plutôt que de s'y noyer. 1000 fois il avait pensé à sa tâche et aux obstacles qui pourraient se dresser sur sa route. Il passa ses options en revue. Il envisagea la marche à suivre, au cas où Nathalie réussirait à manipuler la vieille, exactement comme prévu, et au cas plus probable, où Mélanie Fuller laisserait sa folie lui dicter ses actes. Si Nathalie venait à mourir, il irait de l'avant. Si rien ne se passait comme prévu, il irait de l'avant. S'il ne lui restait plus aucun espoir, il irait de l'avant. Saul gisait dans la niche obscure creusée dans la pierre, pensait à la vie et à la mort, la sienne et celle des autres. Il envisagea toutes les possibilités, puis en inventa quelques autres. Mais lorsque les barreaux se relevèrent pour disparaître dans la pierre, lorsque 4 prisonniers quittèrent leur niche pour se diriger vers la porte, Saul Lasky passa une minute d'éternité à se demander ce qu'il devait faire. Puis il glissa hors de sa cage et se redressa. La pierre était glaciale sous ses pieds. La créature qui avait été Constance Sewell le regarda derrière les barreaux d'acier, les yeux à moitié dissimulés par le voile de ses cheveux emmêlés. Saul courut dans les ténèbres pour rejoindre les autres qui se dirigeaient vers la porte. Assis dans la salle de jeu, les yeux mi-clos, Tony Harrod regardait les quatre hommes qui attendaient le début de la partie. Le visage de Barent était calme et impavide. Les extrémités de ses doigts jointes sur son menton, la commissure de ses lèvres retroussée sur un léger sourire. La tête de Kepler était inclinée en arrière, et son front sillonné par la concentration. Jimmy Wayne Sutter était penché en avant, les bras posés sur la feutrine verte, le front et les lèvres maculés de sueur. Willy était si enfoncé dans son siège que la lumière n'accrochait que son front, ses pommettes et l'arête de son nez. Mais Harrod avait l'impression que ses yeux étaient grands ouverts et fixés sur lui. Il sentit la panique l'envahir lorsqu'il se rendit compte de l'absurdité de sa position. Il n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait. Il n'avait aucune envie d'effleurer la conscience du pion juif et savait que même s'il tentait de le faire, celui qui contrôlait le juif lui refuserait l'accès de son esprit. Harrod dévisagea ses partenaires une dernière fois. Lequel était capable de manipuler simultanément deux pions? En toute logique, c'était sûrement Willy, comme le suggéraient ses mobiles et l'étendue de son talent. Mais pourquoi lui avait-il joué ce petit numéro dans le jardin? Harrod était plongé dans la confusion et dans la terreur. Peu lui importait à présent de savoir que Maria Chen l'attendait en bas et qu'elle avait dissimulé son arme sur le bateau amarré au quai dans le cas où un départ précipité s'avérerait nécessaire.
« Qu'est-ce que ça veut dire, bon Dieu ?»
s'écria Joseph Kepler. Les quatre hommes avaient ouvert les yeux et fixé Harrod. Willy se pencha sous le cône de lumière, le visage écarlate.
« Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Tony ?»
Ses yeux glaciaux se posèrent sur les trois autres. « Mais est-ce bien Tony ? Est-ce la conception que vous avez de l'honneur ?»«
Attendez, attendez !»
cria Sutter, les yeux de nouveau fermés.
« Regardez ! Il s'enfuit ! Nous pouvons, tous ensemble ?»
Les yeux de Barent évoquaient ceux d'un prédateur se réveillant avant la chasse.
« Bien sûr !»
dit-il à voix basse, les mains toujours jointes. « Lasky, le psychiatre, j'aurais dû le reconnaître plus tôt. L'absence de barbe m'a trompé. La personne responsable de cette farce a un piètre sens de l'humour.
« Farce mon cul !»
dit Kepler, qui avait refermé les yeux.
« Rattrapez-le !»
Barent secoua la tête.
« Non, messieurs, la partie de cette nuit est annulée en raison de cette irrégularité. Mes forces de sécurité vont ramener Lasky dans sa cellule.
« Nine !»
dit sèchement Willy.
« Il est à moi !»
Barent se tourna vers lui sans cesser de sourire.
« Oui, il est peut-être bien à vous, nous verrons. En attendant, j'ai déjà pressé le bouton qui alerte la sécurité. » Mes hommes surveillent toujours le début de chaque partie et ils sauront qui ils doivent retrouver. Vous pouvez participer à la capture du psychiatre si vous le souhaitez, Herr Borden. Mais veillez à ce qu'il ne meure pas avant d'avoir été interrogé.
Willy émit un son qui ressemblait à un grondement animal et ferma les yeux. Barent tourna son regard mortellement placide vers Harrod. Saul avait suivi les quatre autres pions jusqu'en haut de la rampe, émergeant dans la moiteur d'une nuit tropicale rendue encore plus oppressante par des menaces de tempête. Aucune étoile n'était visible, mais les éclairs lui permirent de distinguer les arbres et une clairière située au nord de la zone de sécurité. Il trébucha, tomba à genoux, mais se releva aussitôt pour rejoindre les autres. Un immense pentagramme était dessiné sur le sol de la clairière, et les quatre pions avaient déjà pris place à ses pointes. Saul envisagea de s'enfuir à ce moment-là, mais la lueur des éclairs lui révéla la présence de deux gardes armés de M16 munis de viseurs nocturnes. Mieux valait attendre. Saul alla se placer entre Jensen Luard et un mince jeune homme aux cheveux longs. Sans qu'il sache pourquoi, il lui semblait approprié que tous soient entièrement nus. Il était le seul des cinq pions à ne pas être en excellente condition physique. La tête de Jensen Luard pivota comme un buste posé sur une table tournante.
« Si tu peux m'entendre, mon petit pion, » dit la créature en allemand, « je te dis adieu. Je ne te tuerai pas avec colère. Ta mort sera rapide. »
La tête de Luard se tourna ensuite vers le ciel, attendant, ainsi que les autres, un signal quelconque. Les éclairs transformaient le corps puissant du noir en une statue aux reflets argentés. Saul pivota, leva le bras, et lança la grosse pierre qu'il avait ramassée lorsqu'il était délibérément tombé une minute plus tôt. Le projectile atteignit Luard sous l'oreille gauche, et le colosse s'effondra aussitôt. Saul fit demi-tour et se mit à courir. Il avait traversé les fourrés et pénétrait dans la forêt tropicale, avant que les trois autres pions aient eu le temps de réagir. Nul coup de feu ne retentit. Ces cinq premières minutes de course ne furent qu'une fuite éperdue. Les aiguilles de pin et les feuilles de palmier lui coupaient la plante des pieds. Les branches basses et les fourrés lui lacéraient les côtes. Son souffle se faisait rauque dans sa gorge. Puis il se ressaisit et s'accorda une pause, accroupi à la lisière d'un bosquet de bambou, l'oreille tendue. À sa gauche, il entendait le murmure des vagues et un lointain bruit de moteur. Cet étrange bruit râpeux était peut-être celui d'un mégaphone rugissant au-dessus des eaux, mais il ne put distinguer aucun mot. Saul ferma les yeux et essaya de visualiser les cartes et les photos de l'île, se rappelant les nombreuses heures qu'il avait passées avec Nathalie dans la kitchenette du bungalow. Il y avait plus de 6 ou 7 kilomètres, presque 8, jusqu'à la pointe nord. Il savait que la forêt où il se trouvait deviendrait bientôt une véritable petite jungle, laissant la place à des marais salants 1,5 kilomètre avant la pointe nord, mais se transformant à nouveau en jungle marécageuse avant de s'achever sur la plage. Les seules structures qu'il rencontrerait en chemin étaient les ruines de l'hôpital des esclaves, les fondations envahies par la végétation de la plantation du Bose, près de la pointe rocheuse le long de la côte est, et les tombes de guingois du cimetière des esclaves. Saul jeta un regard au bambou brièvement illuminé par un éclair, et éprouva une envie irrésistible de se dissimuler parmi eux, de ramper en leur sein, de se recroqueviller en position fétale et de devenir invisible. Il savait qu'en agissant ainsi, il ne ferait qu'avancer l'heure de sa mort. Les monstres du manoir, trois d'entre eux du moins, avaient passé des années à se traquer dans ces quelques kilomètres carrés de jungle. Lors des interrogatoires effectués à la planque, Harrod avait parlé à Saul de la chasse aux œufs de Pâques, qui se déroulait la dernière nuit. Les membres de l'Island Club lâchaient tous les prisonniers non utilisés, une douzaine d'hommes et de femmes nus et impuissants, puis utilisaient leurs pions préférés pour les traquer, armés de couteaux et d'armes de poing. Barent, Kepler et Sutter connaissaient sûrement toutes les cachettes possibles et imaginables, et Saul ne pouvait s'empêcher de penser que Willy savait précisément où il se trouvait. Il s'attendait d'un instant à l'autre à sentir le contact répugnant du vieil homme dans son esprit, sachant qu'une telle catastrophe aurait pour conséquence de réduire à néant plusieurs mois d'efforts et de préparatifs, toute une vie de rêves sacrifiée en vain. Saul savait que sa seule chance était de fuir vers le nord. Il s'écarta des bambous et se remit à courir, tandis qu'éclairs et grondements annonçaient l'arrivée imminente de la tempête. « Le voilà !» dit Barent en désignant une pâle silhouette nue, un instant avant qu'elle ne sorte de l'écran d'un moniteur de la cinquième rangée. « Aucun doute, c'est bien Lasky, le psychiatre. » Sutter, confortablement assis sur un des profonds canapés de la salle des moniteurs, sirota son bourbon bien tassé et croisa les jambes. « Ça n'a jamais fait aucun doute. La question est la suivante. Qui l'a introduit dans le jeu et pourquoi ?» Les trois autres se tournèrent vers Willy, mais le vieil homme observait un moniteur de la première rangée sur lequel on voyait des gardes emporter un Jensen Luard encore inconscient. Les trois autres pions avaient été envoyés dans la jungle à la recherche de Lasky. Willy se tourna vers ses partenaires et eut un petit sourire. « Faire intervenir le juif aurait été un acte stupide de ma part. Je n'ai pas l'habitude de commettre des actes stupides. »
C. Arnold Barren s'écarta des moniteurs et croisa les bras.
« Pourquoi serait-ce stupide, William ?»
Willy se gratta la joue.
« Vous associez tous le juif à ma personne, même si c'est vous, Herr Barent, qui lui avez fait subir son dernier conditionnement, et êtes le seul parmi nous à ne rien craindre de lui. »
Barent tiqua mais resta muet.
« Si j'avais voulu introduire, comment dirais-je, une carte truquée dans votre jeu, pourquoi n'aurais-je pas choisi un pion inconnu de vous tous, et en bien meilleures conditions physiques ?»
Willy sourit et secoua la tête.
« Non. Réfléchissez une minute et vous verrez qu'il aurait été absurde d'agir ainsi. Je n'ai pas l'habitude d'agir de façon stupide, et vous seriez stupide de penser le contraire. »
Barren se tourna vers Harrod.
« Tony, maintenez-vous toujours votre histoire d'enlèvement et de chantage ?»
Harrod était effondré sur un canapé et se mordillait les phalanges. Il leur avait dit toute la vérité, craignant de les voir se retourner contre lui et désireux de détourner les soupçons. À présent, il le considérait comme un menteur, et il n'avait réussi qu'à atténuer la peur bien naturelle que leur inspirait Willy.
« Je ne sais pas qui est responsable, bordel. Mais il y a ici quelqu'un qui se fout de nous. Quel avantage pourrais-je retirer si c'était moi ?»«
Quel avantage, en effet, » dit Barren sur le ton de la conversation.
« À mon avis, c'est une diversion. »
dit Kepler en jetant un regard tendu à Willy. Ce fut le révérend Jimmy Wayne Sutter qui éclata de rire.
« Une diversion ? Pourquoi faire ? Cet endroit est isolé du monde extérieur. Cette partie de l'île est interdite à tous, sauf aux hommes de frère C, et ce sont tous des neutres. Oh, je suis sûr que cette irrégularité a été constatée. Tous nos assistants ont été escortés jusqu'à leur chambre. »
Harrod leva la tête affolée, mais Barren se contenta de sourire. Il se rendit compte qu'il avait été stupide d'espérer que Maria Chen puisse l'aider en cas de pépin.
« Une diversion ? Pourquoi faire ? » répéta Sutter. « L'humble prêcheur que je suis trouve cette diversion bien peu convaincante. « Il y a quand même quelqu'un qui le contrôle, » dit sèchement Kepler.
« Peut-être pas ? » dit Willy à voix basse. Tous se tournèrent vers lui.
« Mon petit juif s'est montré étonnamment persistant au fil des ans. Imaginez ma surprise lorsque je l'ai vu arriver à Charleston il y a 7 mois. »
Barent avait cessé de sourire.
« Wilhelm, êtes-vous en train d'affirmer que cet homme est venu ici de son propre chef ?»«
Ya ?»
Willy sourit.
« Mon pion du bon vieux temps me suit encore. »
Kepler était livide.
« Vous admettez donc que c'est à cause de vous qu'il est ici, même s'il est venu de sa propre volonté pour vous retrouver. »«
Ah, pas du tout !»
dit Willy d'un ton affable.
« C'est à cause de votre génie que toute la famille du juif est morte en Virginie. »
Barren se tapota les lèvres du bout des doigts.
En supposant qu'il connaissait les responsables de cet acte, comment a-t-il pu apprendre autant de choses sur l'Island Club ?
Il s'était tourné vers Harrod avant même d'avoir fini sa phrase.
« Comment pouvais-je savoir qu'il opérait seul ? »
demanda Harrod d'une voix plaintive.
« Ils n'arrêtaient pas de m'injecter leur putain de drogue !»
Jimmy Wayne Sutter se leva pour s'approcher d'un moniteur où on apercevait une pâle silhouette nue se frayer un chemin parmi des pierres tombales noyées dans la végétation.
« Alors qui est son allié en ce moment ? »
demanda-t-il si doucement qu'on aurait pu croire qu'il parlait tout seul.
« Dinégrine, » dit Willy, « la fille noire, celle qui accompagnait le shérif à Germantown. »
Il éclata de rire, inclinant la tête en arrière et révélant les plombages de ses mollets rusés par l'âge.
« Die Untermenschen se soulève, comme le redoutait le Führer. »
Sutter se détourna de l'écran au moment où y apparaissait le pion jamaïcain de Barent, en train de s'engager d'un pas assuré dans le cimetière que Saul venait de traverser avec difficulté.
« Où est la fille, alors ? »
demanda-t-il.
Willy haussa les épaules.
« Aucune importance. Y a-t-il des négresses dans votre enclos ?»«
Non, » répondit Barent.
« Alors, elle est ailleurs. Peut-être rêve-t-elle en ce moment de se venger de la cabale qui a tué son père. »
« Ce n'est pas nous qui avons tué son père, » dit Barent, toujours plongé dans ses réflexions.
« C'est Melanie Fuller ou Nina Drayton. »«
Exactement. » Willy se mit à rire.
« Encore une ironie du destin. Mais le juif est sur l'île, et il est presque certain que c'est Dinah Green qui l'a aidé à y venir. »
Ils se tournèrent tous vers les moniteurs, mais on y voyait Camos, le pion de sauteur aux allures de lutteur de sumo, qui se frayait un chemin parmi les hautes herbes au sud de la vieille plantation du Bose. Sauteur ferma les yeux pour mieux se concentrer sur lui.
« Nous devons interroger Lasky, » dit Kepler. « Il faut que nous sachions où se cache cette fille. »«
Nein, »
dit Willy en regardant Barent d'un air résolu.
« Nous devons tuer le juif le plus vite possible. Même s'il est complètement fou, il risque de se révéler dangereux pour nous. »
Barent décroisa les bras et se remit à sourire.
« Vous êtes inquiet, William ?»
Willy haussa de nouveau les épaules.
« C'est la seule solution raisonnable. Si nous collaborons tous ensemble pour éliminer le juif, cela prouvera qu'aucun de nous n'est responsable de sa présence. Quant à la fille, il ne sera pas difficile de la retrouver, nicht wahr ? À mon avis, elle a dû retourner à Charleston. »
« Votre avis ne me suffit pas, » dit sèchement Kepler. « Je vote pour que nous interrogions cet homme. »«
James ?»
dit Barent. Sauteur ouvrit les yeux.
« Tuons-le et reprenons la partie, » dit-il avant de refermer les yeux.
« Tony ?»
Surpris, Harold leva la tête.
« Vous voulez dire que j'ai encore le droit de vote ?»«
Nous nous occuperons de votre cas en temps utile, » dit Barent. « Pour l'instant, en tant que membre à part entière de l'Island Club, vous pouvez voter sur cette question. » Harold retroussa les lèvres sur ses petites dents pointues.
« Alors je m'abstiens. Foutez-moi la paix et faites ce que vous voulez de ce type. »
Barent se caressa les lèvres et contempla un moniteur vide. L'espace d'une seconde, un éclair satura la cellule hypersensible et emplit l'écran d'une lueur incandescente.
« William, je ne vois pas comment cet homme pourrait représenter une menace pour nous, mais je pense avec vous qu'il n'en représentera plus aucune une fois mort. Nous n'aurons aucune difficulté à retrouver la fille, ainsi que ses éventuels complices assoiffés de vengeance. »
Willy se pencha en avant.
« Pouvez-vous attendre que Jensen, mon pion, soit rétabli ?»
Barent secoua la tête.
« Cela ne ferait que retarder la partie. »
Il attrapa un microphone sur la console.
« Mr. Swanson, »
dit-il en portant un écouteur à son oreille,
« êtes-vous en train de poursuivre le pion qui est parti vers le nord ?»«
Bien. »«
Oui, oui, je vous confirme qu'il se trouve dans le secteur 27, bravo 6. »« Oui, il est temps que nous fassions subir à cet intrus un préjudice extrême. Ordonnez au bateau de patrouille de converger sur la plage, et dites à l'hélicoptère numéro 3 de quitter son poste pour les rejoindre. Oui, utilisez les infrarouges si possible, et transmettez les données recueillies par les cellules photoélectriques aux équipes de recherche.
Non, je n'en doute pas. Mais faites vite, s'il vous plaît.
Merci.
Ici Barent, terminé. »
Nathalie Preston était assise dans la maison obscure de Melanie Fuller, au cœur du vieux Charleston, et pensait à Rob Gentry. Elle avait souvent pensé à lui au cours des derniers mois, presque chaque soir avant de s'endormir. Mais depuis son retour d'Israël, elle s'était efforcée de refouler son chagrin et ses regrets et d'emplir son esprit d'une résolution qui lui paraissait nécessaire. Ça n'avait pas marché. Depuis son arrivée à Charleston, elle s'était débrouillée pour passer devant la maison de Gentry une fois par jour, en général le soir. À plusieurs reprises, elle avait quitté Saul quelques heures pour se promener dans les rues tranquilles où Gentry et elle s'étaient promenés ensemble, se rappelant les détails les plus banals de leur conversation, mais aussi les sentiments plus profonds qui les avaient habités des sentiments qui s'étaient épanouis bien que tous deux aient su que leur relation amoureuse serait à la fois compliquée et contrariée par les événements. Elle était allée se recueillir sur sa tombe à 3 reprises, chaque fois bouleversée par un chagrin que nulle vengeance ne serait capable de compenser ou de faire disparaître, se jurant chaque fois de ne plus revenir. Nathalie entamait la seconde nuit interminable qu'elle devait passer dans le musée des horreurs de Mélanie Fuller, et savait sans l'ombre d'un doute que si une chose devait lui permettre de survivre aux heures et aux jours à venir, c'était l'amour, plutôt qu'un quelconque désir de vengeance. Elle avait passé un peu plus de 24 heures au sein de la ménagerie de zombies de Mélanie Fuller. Cela ressemblait à l'éternité. La nuit de dimanche à lundi avait été la pire. Elle était restée dans la maison Fuller jusqu'à 4 heures du matin, ne la quittant qu'une fois assurée que Saul était en sécurité jusqu'au massacre du soir suivant. S'il survivait jusque-là. Nathalie n'avait d'autres informations que celles que le vieux monstre lui avait données par la bouche de l'enfant mort-vivant, qui avait jadis été Justin Warden. Nina ne pouvait pas contrôler Saul à une telle distance, lui avait-elle dit. Elle avait besoin de l'aide de Mélanie, afin de sauver Willy et elle-même de la colère de l'Island Club. Cette supercherie lui paraissait de moins en moins convaincante au fil des heures. Lors de cette première nuit, Justin était resté de longs moments aveugle et silencieux. Les autres membres de la famille de Mélanie demeurant eux aussi immobiles comme des mannequins. Nathalie en avait conclu que la vieille s'affairait à contrôler Miss Sewell et l'homme que Justin et elle avaient passé des semaines à observer à la jumelle depuis le parc donnant sur le fleuve. Mais il était encore trop tôt pour faire intervenir ce dernier. À en croire Justin, Mélanie avait observé le massacre de la première nuit par les yeux d'un garde. Nathalie avait imité de son mieux les accents péremptoires de Nina pour ordonner à Mélanie de se montrer prudente et de ne pas révéler sa présence. Justin lui avait lancé un regard noir, puis était resté silencieux pendant 1 heure, laissant Nathalie impuissante et privée d'informations. Elle s'attendait à sentir la vieille pénétrer dans son esprit pour la tuer. Pour les tuer toutes les deux. Nathalie était assise dans la maison puant l'ordure et la pourriture, et tentait de penser à Rob, à ce qu'aurait dit Rob dans de telles circonstances, aux plaisanteries qu'il aurait faites. À 00h, elle contrefit la voix hautaine de Nina pour exiger qu'on allume les lumières. Le géant nommé Kelley actionna un commutateur, allumant une lampe de 40 watts à l'abat-jour à moitié déchiré. La lueur crue était encore pire que les ténèbres. Le salon était empli de poussière, de vêtements abandonnés, de toiles d'araignées et de débris de nourriture. On apercevait un épi de maïs à moitié entamé et déjà racorni sous le divan affaissé. Des pelures d'orange traînaient sous la table basse de style géorgien. Quelqu'un, Justin peut-être, avait maculé de confiture de fraises ou de framboises les accoudoirs du fauteuil et du canapé, y laissant des empreintes qui évoquaient des taches de sang. Nathalie entendait des rats courir dans les murs, peut-être même dans les couloirs. Il leur était facile de pénétrer dans la maison par les fenêtres cassées qu'elle apercevait chaque fois qu'elle traversait la cour. On entendait parfois des bruits en provenance de l'étage, mais ils n'étaient sûrement pas dus aux rats. Nathalie pensa au cadavre vivant qu'elle avait entrevu dans la chambre. Corps jadis féminin, et à présent aussi difforme et flétri qu'une tortue séculaire arrachée à sa carapace, maintenue en vie par des perfusions et des machines. Elle se demandait parfois, durant de longues périodes où aucun des membres de l'obscène famille ne semblait ni bouger ni respirer, si Mélanie Fuller n'était pas morte, si ces automates de chair et de sang ne continuaient pas tout simplement de concrétiser les ultimes fantasmes de son cerveau en décomposition, marionnettes dansant au rythme des derniers spasmes du marionnettiste.
« Ils tiennent ton juif !» zézaya Justin quelque temps après minuit.
Nathalie sursauta, émergeant de sa somnolence. Kelley se tenait derrière le fauteuil où était assis le petit garçon, les traits découpés par la lampe posée sur la table basse. Marvin, Howard et l'infirmière Old Smith se trouvaient quelque part dans l'ombre derrière Nathalie.
« Qui l'a capturé ? »
octa-t-elle. Le visage du garçonnet semblait factice à la lueur crue de l'ampoule. Une frimousse de poupon, moulée dans du plastique écaillé. Nathalie se rappela le mannequin grandeur nature qu'elle avait aperçu à Grumblethorpe et se rendit compte avec un pincement au cœur que Mélanie s'était arrangée pour transformer le petit garçon en une imitation de cette chose pourrissante.
« Personne ne l'a capturé, » répondit sèchement Justin. « Il y a une heure, ils ont ouvert les barreaux et ils l'ont fait sortir de sa cage pour participer aux réjouissances de cette nuit. Tu n'as donc aucun contact avec lui, Nina ?»
Nathalie se mordit à les lèvres et regarda autour d'elle. Jackson était en poste dans la voiture, à un demi-pâté de maison de là, tandis que Poisson-Chat observait la maison depuis une ruelle toute proche. Ils auraient tout aussi bien pu se trouver sur une autre planète.
« Il est trop tôt, Mélanie. Dis-moi ce qui se passe. »
Justin lui sourit de toutes ses dents de lait.
« Je ne pense pas, Nina, ma chérie, » siffla-t-il. « Il est temps que tu me dises où tu es. »
Kelley fit le tour du fauteuil. Marvin sortit de la cuisine. Il tenait à la main un long couteau qui accrocha la lueur de l'ampoule. L'infirmière Old Smith gronda derrière Nathalie.
« Stop !»
murmura Nathalie. Sa gorge s'était serrée à la dernière seconde, et ce qui aurait dû être un ordre émis par la voix autoritaire de Nina ne fut qu'une prière étouffée.
« Non, non, non !»
siffla Justin en glissant à bas de son siège. Il se dirigea vers elle à croupetons, effleurant des doigts le tapis oriental taché comme une mouche grimpant le long d'un mur.
« Il est temps de tout nous dire, Nina, sinon tu vas perdre ta domestique de couleur. Montre-moi, Nina, montre-moi le talent qu'il te reste encore, si tu es Nina. »
Le visage de l'enfant était devenu un masque féroce, comme si des flammes invisibles faisaient fondre sa tête de poupon.
« Non !»
dit Nathalie en se levant. Kelley lui bloqua l'accès à la porte. Marvin contourna le divan. Il fit courir la lame du couteau sur la paume de sa main, la maculant de son sang rouge vif.
« Il est temps de tout nous dire !» murmura Justin.
On entendit des bruits d'agitation à l'étage.
« Oui, il est temps de mourir pour ta négresse !»
Le vent frappa l'île avant la pluie, secouant frénétiquement les palmiers, projetant dans les airs une ondée de branches et de feuilles coupantes. Saul tomba à genoux et leva les bras pour se protéger des mille griffes du feuillage. Les éclairs découpèrent la scène chaotique en une succession d'images stroboscopiques auxquelles les coups de tonnerre fournissaient une bande sonore tonitruante. Saul était perdu. Il se blottit sous une grande fougère pour s'abriter des éléments et chercha à se repérer dans la nuit plongée dans le chaos. Il avait atteint les marais salants, puis son sens de l'orientation l'avait trahi, et, croyant émerger à la lisière de la jungle, il s'était retrouvé une heure plus tard dans le cimetière des esclaves. Un hélicoptère rugit au-dessus de sa tête, fouillant la jungle de son projecteur aussi incandescent que les éclairs. Saul rampa un peu plus sous la fougère, ignorant de quel côté du marais il se trouvait. Lorsqu'il avait parcouru une deuxième fois le cimetière, quelques heures plus tôt, le pion maigre aux cheveux longs avait jailli de l'ombre derrière un pan de mur et s'était jeté sur lui, dents et griffes dehors. Épuisé, terrifié, Saul avait saisi l'objet le plus proche, une barre de fer rouillée qui avait peut-être jadis soutenu une croix, et tenté de résister aux assauts du garçon. Il l'avait frappé à la tempe, lui ouvrant une large entaille. Le pion s'était effondré, assommé. Saul s'était agenouillé près de lui, lui avait tâté le pouls, puis était reparti en courant vers la jungle. L'hélicoptère refit son apparition alors que Saul s'engouffrait sous les cyprès qui bordaient le marais. L'appareil passa 6 mètres au-dessus de la cime des arbres, luttant contre le vent, mais le bruit de celui-ci couvrait sans peine celui des rotors. Saul ne redoutait guère l'hélicoptère. Il était trop instable pour fournir une bonne plateforme de tir, et il ne pensait pas que ses occupants puissent le voir tant qu'il resterait à couvert. Saul se demanda pourquoi le soleil ne s'était pas encore levé. Il était persuadé que son épreuve durait déjà depuis plusieurs heures, suffisamment d'heures pour meubler une douzaine de nuits. Il s'accroupit près d'un cyprès, respira à fond et examina ses jambes et ses pieds. On aurait dit qu'un bourreau les avait lacérés avec des lames de rasoir. L'espace d'une seconde, il s'imagina qu'il portait des chaussures écarlates et des chaussettes rayées rouge et blanc. Le vent se calma, présageant une averse imminente. Saul leva la tête vers le ciel et cria en hébreu.
« Oi ! Tu as d'autres surprises en réserve ?»
Un faisceau horizontal le poignarda, venu de derrière les cyprès. Il pensa d'abord que c'était un éclair, puis se demanda comment l'hélicoptère avait réussi à se poser, mais comprit une seconde plus tard qu'il se trompait. Les cyprès dissimulaient une étroite plage. C'était l'océan. Les hors-bords fouillaient le rivage de leur projecteur. Saul rampa vers le sable sans se soucier d'être vu. La seule plage de cette partie de l'île se trouvait sur la pointe nord. Il avait réussi. Combien de fois était-il arrivé à quelques mètres de la plage avant de replonger dans la jungle complètement désorienté? À cet endroit, la plage était large d'à peine 3 ou 4 mètres et les vagues venaient s'écraser sur les rochers. Le vent et le tonnerre avaient étouffé le bruit des rouleaux avant de se calmer quelque peu. Saul tomba à genoux dans le sable et regarda la mer. Deux bateaux au moins croisaient derrière la barrière d'écume, poignardant la plage du faisceau incandescent de leur puissant projecteur. Un éclair découpa leur silhouette l'espace d'un instant, et Saul vit qu'ils étaient à moins de 100 mètres de distance. Il aperçut nettement les formes sombres des hommes armés de fusils. Un des faisceaux remonta la plage et le rideau d'arbres dans sa direction, et il courut vers la jungle, s'enfonçant parmi les fougères et les hautes herbes un instant avant d'être découvert. Accroupi derrière une petite dune, il réfléchit à sa position présente. L'intervention de l'hélicoptère et des hors-bords montrait clairement que Barent et sa clique avaient cessé de le poursuivre avec leurs pions et avaient presque certainement identifié leur proie. Saul espérait que sa présence avait semé la confusion, sinon la zizanie dans leur rang, mais il n'y comptait guère. Il n'est jamais profitable de sous-estimer l'intelligence et la ténacité de l'ennemi. Saul était retourné en Israël durant les heures les plus noires de la guerre du Kippour et savait parfaitement que la suffisance pouvait se révéler fatale. Il se mit à courir parallèlement à la plage, écartant les fourrés qui se dressaient devant lui, trébuchant sur les racines des palétuviers, ne sachant même pas s'il allait dans la bonne direction. Il se jetait à terre toutes les 2 ou 3 minutes, chaque fois que surgissait le faisceau du projecteur ou que grondait le rotor de l'hélicoptère. Ses poursuivants savaient qu'il se trouvait dans cette partie de l'île. Cela ne faisait aucun doute. Il n'avait vu ni caméra ni cellule photoélectrique durant les heures précédentes, mais il était sûr que Barent et sa clique utilisaient toutes les ressources de la technologie pour enregistrer leurs jeux écœurants et pour s'assurer qu'un pion évadé n'avait aucune chance de survivre sur l'île, ne serait-ce que quelques semaines. Saul trébucha sur une racine invisible et tomba, heurtant du front une épaisse branche avant de plonger dans 15 centimètres d'eau stagnante. Il resta assez conscient pour rouler sur lui-même et agripper une poignée d'herbes coupantes pour se hisser vers la plage. Du sang coulait sur sa joue et dans sa bouche. Il avait le même goût que l'eau salée du marécage. D'autres bateaux convergeaient vers la plage. Saul en aperçut 4 depuis sa cachette sous les branches basses d'un cyprès. Le plus proche n'était qu'à 30 mètres du rivage, secoué par l'océan agité. Il commençait à pleuvoir, et Saul pria pour que se déclenche un déluge tropical qui réduirait la visibilité à 0 et noierait ses ennemis, comme les soldats de Pharaon. Mais l'averse demeura relativement clémente, simple prélude à une véritable tornade ou phénomène passager à l'issue duquel le ciel s'ouvrirait sur une aube tropicale, qui scellerait le destin de Saul. Il attendit 5 minutes, se tapissant derrière un tronc d'arbre abattu, lorsque les hors-bords se rapprochaient ou que l'hélicoptère passait au-dessus de lui. Il avait envie de rire, de se dresser pour leur lancer des pierres et des jurons durant les quelques secondes de répit qui lui seraient accordées avant les premières balles. Il attendit, jeta un coup d'œil vers la plage, lorsqu'un bateau frôla le rivage, projetant un peu plus d'écume sur le sable. Des explosions retentirent dans la jungle derrière lui. L'espace d'une seconde, il crut que les éclairs venaient de tomber tout près. Puis il entendit un bruit de rotor et comprit que ses poursuivants lâchaient des charges explosives depuis l'hélicoptère. Ces déflagrations étaient trop puissantes pour être dues à des grenades. Saul en sentait les vibrations dans le sol et dans le tronc du cyprès. Secousses et explosions se firent plus violentes. Ils devaient déjà lâcher leurs bombes à proximité de la plage, peut-être à 20 ou 30 mètres de sa position, à intervalle de 60 ou 80 mètres. En dépit de la pluie, une odeur de fumée parvint à ses narines en provenance de la plage sur sa droite. Si la tempête venait toujours du sud-est, pensa-t-il, ces effluves de fumée confirmaient qu'il se trouvait bien près de la pointe nord de l'île, mais du côté nord-est, encore assez loin de l'endroit d'où le Cessna avait décollé et à plus de 400 mètres de la crique. Il lui faudrait des heures pour gagner celle-ci par la jungle en longeant la plage, et il se perdrait sûrement s'il tentait de prendre un raccourci dans le marécage. Une explosion déchira la nuit à moins de 200 mètres au sud. On entendit un hurlement incroyable. Un vol de hérons fondit vers le ciel nocturne, puis retentit un long cri jailli de la gorge d'un être humain. Saul se demanda s'il s'agissait d'un pion ou d'une patrouille se dirigeant vers lui et que l'hélicoptère avait bombardé par mégarde. Il entendit distinctement un bruit de rotor qui se rapprochait de lui par le sud, puis le staccato d'une arme automatique. On tirait au jugé sur la jungle depuis l'un des hors-bords. Saul regretta d'être nu. Une eau glacée gouttait sur lui depuis les feuilles. Ses membres lui faisaient souffrir le martyre, et, chaque fois qu'il baissait les yeux, les éclairs lui révélaient son ventre flasque et émacié, ses jambes pâles et osseuses, ses organes génitaux contractés par le froid et la peur. Ce spectacle n'était guère de nature à l'emplir d'assurance et à lui donner envie de se jeter dans la bataille. Il lui donnait plutôt envie de prendre un bon bain chaud, d'enfiler plusieurs couches de vêtements et de trouver un lit bien confortable. Cela faisait plusieurs heures que son corps était propulsé par l'adrénaline, et il en supportait maintenant les conséquences. Il était glacé, perdu, terrifié, coque d'humanité exempte de toute émotion hormis la terreur, de toute motivation hormis la volonté de survivre, une pulsion atavique et dépassée dont il avait oublié la raison d'être. Bref, Saul Lasky était redevenu l'homme qu'il était lorsqu'il travaillait à la fosse 40 ans auparavant, à la seule différence que l'espoir et la force de la jeunesse lui faisaient désormais défaut. Mais ce n'était pas la seule différence, comprit Saul en levant les yeux vers la tempête de plus en plus violente.
« J'ai choisi de venir ici »
cria-t-il en polonais à la face des cieux, se souciant comme d'une guigne d'être entendu par ses poursuivants. Il leva le poing mais ne le secoua pas, se contentant de le serrer, en signe de résolution, de triomphe, de défi, de résignation. Lui-même n'aurait su le dire. Saul traversa le rideau des cyprès, tourna à gauche après avoir foulé les hoyas et courut sur la plage nue.
« Harold ?»«
Venez ici, » dit Jimmy Wayne Sutter.
« 1 minute. »
Harold était resté seul dans la salle des moniteurs. Les caméras placées au niveau du sol ne montraient plus rien d'intéressant, mais un des hors-bords patrouillant autour de la pointe nord était pourvu d'une caméra noir et blanc, et l'hélico qui larguait du napalm et des charges explosives dans la forêt disposait quant à lui d'une caméra couleur. Harold trouvait que les prises de vue étaient nulles. Il leur aurait fallu une steadicam pour filmer depuis l'hélico, et les images houleuses retransmises par les deux moniteurs lui donnaient la nausée. Mais il était bien obligé d'admettre que le budget de ce son et lumière dépassait celui de toutes les productions qu'il avait pu monter avec Willy, et approchait sans doute celui de l'orgasme incendiaire imaginé par Coppola pour la fin d'Apocalypse Now. Harrod avait toujours pensé que Coppola avait fait une connerie en coupant les scènes au napalm de son avant-dernière version, et il n'avait guère été consolé en les voyant défiler lors du générique final dans la version définitive. Il regretta de ne pas avoir amené une Steadicam et une Panavision montées sur chariot pour filmer ce feu d'artifice. Les prises de vue lui auraient sûrement servi à quelque chose, ne serait-ce qu'à bâtir un scénario autour.
« Venez, Tony, nous vous attendons !» dit Sutter.
« Une minute !»
Harrod engloutit une poignée de cacahuètes et sirota sa vodka.
« Selon les messages radio, ils ont coincé ce pauvre con au nord de l'île. » Et ils vont brûler la jungle jusqu'à...
« Venez ici tout de suite !» ordonna sèchement Sutter.
Harrod se tourna vers l'évangéliste. Il y avait presque une heure qu'il discutait d'arrache-pied dans la salle de jeu, et à en juger par la gueule que faisait Sutter, quelque chose ne tournait pas rond.
« Ouais, j'arrive. »
Avant de quitter la pièce, il jeta un regard par-dessus son épaule et eut le temps d'apercevoir un homme nu qui courait sur la plage, sous l'œil des caméras. L'atmosphère qui régnait dans la salle de jeu était aussi tendue que celle des scènes de carnage diffusées par les moniteurs. Willy était assis en face de Barent, et Sutter alla se placer à côté du vieil Allemand. Barent avait les bras croisés et semblait très contrarié. Joseph Kepler faisait les 100 pas devant la baie vitrée. Les rideaux étaient ouverts, les vitres striées de pluie, et Harrod aperçut Live Oak Lane lorsqu'un éclair illumina la scène. On entendait gronder le tonnerre en dépit des murs épais et du double vitrage. Harrod consulta sa montre. 00:45. Il se demanda avec lassitude si Maria Chen était toujours en garde à vue ou si tous les assistants avaient été libérés. Il regrettait amèrement d'avoir quitté Beverly Hills.
« Nous avons un problème, Tony, » dit C. Arnold Barent. « Asseyez-vous. »
Harrod s'exécuta. Il s'attendait à entendre Barent, ou plus probablement Kepler, lui annoncer qu'il ne faisait plus partie de l'Island Club et qu'il ne serait bientôt plus de ce monde. Il savait que son talent serait impuissant face à celui de Barent, de Kepler ou de Sutter. Il ne pensait pas que Willy lèverait le petit doigt pour lui venir en aide. Peut-être que c'était Willy qui lui avait envoyé le juif pour le discréditer et l'éliminer, pensa-t-il soudain, l'esprit aussi clair que celui d'un condamné à mort.
Pourquoi ? Se demanda-t-il. En quoi suis-je une menace pour Willy ? En quoi mon élimination lui profiterait-elle ?
Si l'on acceptait Maria Chen, il n'y avait sur l'île aucune femme qu'il puisse utiliser. La trentaine d'hommes qui se trouvaient au sud de la zone de sécurité étaient tous des neutres, grassement payés par Barent. Le milliardaire n'aurait pas besoin de son talent pour éliminer Tony Harrod. Il lui suffirait d'appuyer sur un bouton.
« Ouais, » dit-il d'une voix lasse. « Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Votre vieil ami Herborden vous a réservé une surprise pour cette soirée, » dit Barent d'une voix glaciale.
Harrod battit les paupières et se tourna vers Willy. Cette surprise serait sûrement à ses dépens, mais il ne voyait pas ce que Willy pouvait avoir en tête.
« Nous avons seulement suggéré d'amender le règlement de l'Island Club, » dit Willy. « C'est Arnold et Mr. Kepler n'approuvent pas notre proposition. »«
Votre proposition est insensée, bordel !»
s'exclama Kepler, toujours debout près de la fenêtre.
« Silence !»
ordonna Willy. Kepler obtempéra.
« Nous ?» dit Harrod hébété. « Qui est nous ?»«
Le révérend Sutter et moi-même, » répondit Willy. « Il s'avère que mon vieil ami James est également l'ami de Herborden depuis plusieurs années, » dit Barent. « Les événements prennent une tournure fort intéressante. »
Harrod secoua la tête.
« Est-ce que vous avez une idée de ce qui est en train de se passer à la pointe nord de votre putain d'île ?»«
Oui. »
Barent ôta de son oreille un écouteur couleur chair plus petit qu'un sonotone et tapota le minuscule micro qui était relié par un fil. « Cela n'a guère d'importance comparé à notre discussion.
Si absurde que cela paraisse, votre vote est décisif, alors que vous faites partie du comité de direction depuis à peine une semaine.
Je ne sais même pas de quoi vous discutez, bon sang.
Willy prit la parole.
Nous avons proposé un amendement qui permettrait à l'Island Club d'exercer ses activités cynégétiques sur une plus grande échelle.
À l'échelle du monde, dit Sutter. Le visage de l'évangéliste était cramoisi et couvert de sueur.
Du monde ?
Barent eut un sourire sardonique.
Il souhaite utiliser comme pion des nations plutôt que des individus.
Des nations ? Répéta Harrod.
Un éclair tomba quelque part derrière Live Oak Lane, assombrissant le verre polarisé de la baie vitrée.
« Bon Dieu, Harrod ! » s'écria Kepler. « Vous ne savez rien faire que répéter ce que vous entendez. Ces deux imbéciles veulent faire sauter la planète. Ils exigent que nous jouions avec des missiles et des sous-marins plutôt qu'avec des individus. Que nous anéantissions des nations pour marquer des points. »
Harrod s'accouda à la table et regarda fixement Willy et Sutter. Il était incapable d'ouvrir la bouche.
« Tony, » dit Barent, « est-ce la première fois que vous avez connaissance de cette proposition ?»
Harrod hocha la tête.
« Mr. Borden ne l'a jamais évoqué avec vous. »
Harrod secoua la tête.
« Vous voyez à quel point votre vote est important ?» dit doucement Barent. « Cet amendement aurait pour conséquence un profond changement dans la nature de nos joutes annuelles. »
Kepler eut un rire cassé.
« Il aurait pour conséquence la destruction de cette putain de planète !»«
Ya !» dit Willy. « Peut-être, et peut-être pas. Mais ce serait une expérience fascinante. »
Harrod s'affala sur son siège.
« Vous déconnez !»
articula-t-il d'une voix aiguë de jeune garçon pubère.
« Pas le moins du monde !» dit Willy avec onctuosité. « J'ai déjà montré à quel point il était facile de circonvenir les dispositifs de sécurité militaire du niveau le plus élevé. Mr. Barent et ses amis savent depuis plusieurs dizaines d'années à quel point il est facile d'influencer les chefs d'État. Il nous suffit d'élargir le champ de nos activités pour rendre nos jeux infiniment plus fascinants. Nous serions certes obligés de parcourir le monde et d'établir une base plus sûre au cas où la concurrence se ferait plus rude. Mais nous sommes sûrs que c'est Arnold pourra régler ce genre de détails. Nicht wahr, Herr Barent ? »
Barent se frictionna la joue.
« Sans aucun doute. Ce n'est pas l'absence de ressources qui motive mon objection. Pas plus que le temps qu'il serait nécessaire de consacrer à une partie jouée à une si grande échelle, mais le gaspillage de ressources humaines et autres, que ne manquerait pas d'entraîner un jeu de cette envergure. »
Jimmy Wayne Sutter eut un rire de gorge, familier à des millions de téléspectateurs.
« Frère Christian, vous ne croyez quand même pas que vous emporterez votre fortune au paradis, n'est-ce pas ?»«
Non, » répondit doucement Barent. « Mais je ne vois pas pourquoi je la détruirais sous prétexte que je ne serais plus là pour en profiter. »«
Ah ! »
« Mais ce n'est pas mon avis, » dit Willy d'une voix neutre. « Vous avez envisagé de traiter de nouvelles affaires. La proposition a été déposée. Jimmy Wayne et moi votons oui. Vous et ce lâche de Kepler votez non. À votre tour, Tony. »
Harrod sursauta. Impossible de résister à la voix de Willy.
« Je m'abstiens. Allez vous faire foutre tous autant que vous êtes. »
Willy tapa du poing sur la table.
« Harrod, espèce de suppôt de la juiverie, votez !»
Harrod sentit un étau se resserrer autour de sa tête, l'acier lui pénétrait le crâne. Il saisit ses tempes et ouvrit la bouche sur un hurlement muet.
« Stop !»
ordonna Barent, et l'étau s'évanouit. Harrod faillit pousser un cri de soulagement.
« Il a voté, »
continua Barent.
Il a parfaitement le droit de s'abstenir. N'ayant pas obtenu de majorité, la proposition est repoussée.
« Nein !»
Une flamme bleue semblait luire dans les yeux gris et glaciales de Willy.
« N'ayant pas obtenu de majorité, nous sommes dans une impasse. »
Il se tourna vivement vers Sutter.
« Que pensez-vous, Jimmy Wayne? Pouvons-nous rester sur une impasse ?»
Le visage de Sutter était luisant de sueur. Il regarda fixement un point situé au-dessus de la tête de Barent et récita
« Les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier fit sonner sa trompette. Grêle et feu mêlés de sang tombèrent sur la terre. Le tiers de la terre flamba. Le deuxième ange fit sonner sa trompette. On eût dit qu'une grande montagne embrasée était précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le troisième ange fit sonner sa trompette. Et du ciel, un astre immense tomba, brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le quatrième ange fit sonner sa trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles furent frappés. Alors je vis. Et j'entendis un aigle qui volait au zénith proclamer d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des sonneries de trompettes et des trois anges qui doivent encore sonner. » Le cinquième ange fit sonner sa trompette. Je vis une étoile précipitée du ciel sur la terre, et il fut donné la clé du puits de l'abîme. Sutter s'interrompit, vida son verre de bourbon et s'assit en silence.
« Et qu'est-ce que cela signifie, James ?» demanda Barent. Sutter sembla sortir brusquement d'un rêve. Il s'essuya le visage avec la pochette en soie lavande qui se trouvait dans la poche de poitrine de son complet blanc.
« Cela signifie qu'il ne peut pas y avoir d'impasse, » murmura-t-il d'une voix rauque. « L'Antéchrist est parmi nous. Son heure est enfin venue. Nous ne pouvons qu'accomplir ce qui est écrit et témoigner des tribulations qui vont descendre sur nous. Nous n'avons pas le choix. »
Barent croisa les bras et sourit. « Et lequel d'entre nous est votre Antéchrist, James ?» Les yeux fous de Sutter allèrent de Willy à Barent.
« Que Dieu ait pitié de moi, je ne sais pas. J'ai vendu mon âme pour le servir et je ne sais pas. »
Tony Harrod s'écarta de la table.
« Ça devient trop dingue pour moi. Je me casse. »«
Restez où vous êtes !» ordonna Kepler.
« Personne ne sortira de cette pièce tant que la question ne sera pas réglée. »
Willy s'enfonça dans son siège et croisa les doigts sur son ventre.
« J'ai une suggestion à vous faire, » murmura-t-il.
« Je vous écoute, » dit Barent.
« Je vous suggère d'achever notre partie d'échecs, Herr Barent. »
Kepler cessa de faire les 100 pas et fixa du regard Willy, puis Barent.
« Partie d'échecs ? Quelle partie d'échecs ?»«
Ouais !»
dit Tony Harrod. « Quelle partie d'échecs ?»
Il se frotta les yeux et revit en esprit son propre visage sculpté dans l'ivoire. Barent sourit.
« Mr. Borden et moi avons entamé il y a plusieurs mois une partie par correspondance. Un divertissement bien inoffensif. »
Kepler s'adossa mollement à l'abbé Vitré.
« Oh Seigneur, grand Dieu tout-puissant !»«
Amen !»
dit Sutter les yeux à nouveau vitreux.
« Plusieurs mois ?» répéta Harrod. « Plusieurs mois ?» Vous voulez dire que pendant que toute cette merde nous tombait dessus, Trask, Haynes, Colben ?» « Vous étiez en train de jouer à une putain de partie d'échecs !»
Sutter émit un son qui tenait du rire et de l'éructation.
« Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, »
marmonna-t-il.
« Et il connaîtra les tourments dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élève au siècle des siècles. »
Sutter eut une nouvelle éructation.
« À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front, et son chiffre est 666. »«
T'es c'est fou, » dit Willy d'une voix affable.
« Êtes-vous d'accord, Herr Barent? La partie est presque achevée, il nous suffit d'en jouer la finale. Si je gagne, nous organiserons nos jeux sur une plus grande échelle. Si vous gagnez... « Je me contenterai de l'organisation présente. » « Nous nous en étions arrêtés au 35e coup, »
dit Barent.
Votre position n'était pas... enviable.
Ya.
Willy eut un large sourire.
Mais je saurai m'en contenter. Je n'exigerai pas d'entamer une nouvelle partie.
Et si cette partie s'achève sur une impasse?
Willy haussa les épaules.
En cas d'impasse, c'est vous qui gagnez. Je n'emporterai la décision que si ma victoire est évidente.
Barren contempla les éclairs.
« Ne faites pas attention à ces conneries !» s'écria Kepler. « Il est complètement fou !»«
Taisez-vous, Joseph !» Barren se tourna vers Willy.
« D'accord, achevons cette partie. Utiliserons-nous les pièces disponibles ?»«
Cela me convient parfaitement !» dit Willy avec un large sourire qui exhiba sa denture parfaite.
« Nous rendons-nous au rez-de-chaussée ?»«
Oui. Un instant, s'il vous plaît. »
Il attrapa son écouteur et resta silencieux quelques secondes.
« Ici, Barent. Envoyez une équipe à terre et éliminez immédiatement le juif. C'est compris ?»«
Bien. »
Il posa écouteur et micro sur la table.
« Nous sommes prêts. »
Harrod les suivit jusqu'à l'ascenseur. Sutter, qui marchait devant lui, trébucha, se retourna et lui agrippa le bras.
« En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, » lui murmura-t-il avec insistance. « Ils souhaiteront mourir, et la mort les fuira. »«
À te faire foutre !» dit Harrod en dégageant son bras. Les cinq hommes prirent l'ascenseur et descendirent en silence.